Merci à vous de m'avoir convié. Je vous félicite pour votre dynamisme et puis aussi votre sens de l'organisation, parce que c'est vraiment organisé au cordeau. Merci à vous. Et puis c'est l'occasion de retrouver des collègues, des amis, et puis d'en rencontrer de nouveau. Donc je vous remercie. Alors un certain nombre de choses ont été dites. Moi, quand on m'a proposé d'analyser le principe de fraternité en quelque sorte à l'épreuve de droits étrangers, je n'ai guère hésité. On peut trouver plein de formules, plein de titres, hein, puisque je vais vous parler notamment du délit de ce qu'on appelle le délit de solidarité. Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé l'angle d'attaque assez bienvenu pour différentes raisons, hein, parce qu'effectivement, qu'on prenne la fraternité sous l'angle symbolique ou qu'on la prenne sous un angle juridique avec désormais une valeur constitutionnelle, le droit des étrangers représente bien une sorte d'épreuve vis-à-vis de ce principe. Alors, pour moi, ce principe, je dirais en premier lieu qu'il fait partie, et c'est aussi pour ça que nous en parlons aujourd'hui, de notions qui sont intimement liées à la République, au sens, hein, la République au sens français du terme, mais la valorisation d'un certain nombre de principes républicains varie suivant les époques, suivant l'actualité. Je dirais que la fraternité a un destin actuellement un peu comparable à celui de la laïcité. La laïcité, il y a quelques années, n'était absolument pas du tout mise en exergue. Aujourd'hui, c'est le cas. La question de la fraternité, à mon sens, c'est une question qu'on peut aborder un peu de la même manière. On y a vu principalement une dimension symbolique. Et puis aujourd'hui, et avant nous, il y a y compris de grandes réflexions, de grands juristes sur ces questions-là. Aujourd'hui, on s'interroge à juste titre sur sa valeur juridique et ce qui peut en découler. Alors, on a beaucoup dit que ça avait avant tout une dimension symbolique dans l'histoire. Je ne le contredirai pas, simplement, je dirais que quand on dit que quelque chose est symbolique, il y a en quelque sorte deux acceptions. Ça peut être perçu de manière un peu négative, c'est symbolique, donc c'est pas grand-chose, mais ça peut être aussi conçu comme quelque chose de hautement symbolique et de finalement très important. Et à mon sens, le caractère symbolique qui a été rappelé, les origines ont été rappelées, je ne reviendrai pas là-dessus, le caractère symbolique de la fraternité a été indéniablement renforcé par l'affirmation, avec la 4e, la 5e République, de la dimension démocratique et sociale de la République, au sens où le développement de notre système social, notre conception française du service public, aboutit à ce que la fraternité, politiquement, économiquement, socialement, apparaisse, à mon sens, un peu comme l'envisageait un politicien nommé Leroux au 19e, comme une sorte de trait d'union entre la liberté et l'égalité, au sens où le primat de la liberté qui caractérisait ce qu'on vous enseigne comme étant la première génération de droits de l'homme, eh bien ce primat de la liberté, petit à petit, via l'évolution de la société, via le préambule de 46, via la définition du bloc de constitutionnalité, etc., a été contrebalancé par un renforcement de la notion d'égalité, et pas simplement une égalité en droit pur, mais une certaine égalité concrète, en tout cas un désir d'égalité concrète pour partie. Et sous cet angle-là, les droits créances, le service public, la lutte contre les discriminations, la valorisation de l'égalité entre les sexes, à mon sens, sont autant d'éléments qui montrent que la fraternité est symboliquement très importante, parce que ce sont autant d'éléments qui démontrent que notre République n'est pas un régime neutre. En tout cas, ne se conçoit pas juridiquement et politiquement comme un régime neutre, c'est-à-dire un régime qui serait républicain, qui serait démocratique, mais on dirait, vous pouvez tenter votre chance. Notre République soit comme un régime, alors je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que parfois c'est guère autre chose qu'un objectif, mais elle se conçoit comme un régime. À mon sens, un rôle très important. Une fois qu'on dépasse le cadre symbolique, la question juridique se pose, notamment parce que le symbole est très important. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette valeur juridique? On a été éclairé de manière très très précise il y a quelques minutes sur la valeur constitutionnelle. Pour moi, dans cette décision, au regard du sujet notamment du délit de solidarité, on s'intéresse à une dimension spécifique de la fraternité. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à la fraternité au sens où c'est un élément qui fait partie, qui participe du projet collectif, qui nous permet de faire société. Mais que finalement, on aborde sous l'angle collectif, sous l'angle juridiquement, avec des comportements individuels. Il y a ça aussi dans cette décision, c'est-à-dire quelqu'un, militant ou simplement citoyen sensible à la détresse d'un étranger, adopte un comportement, réalise une action répréhensible ou non. Ça signifie que là, si on parle de fraternité, juridiquement, on cherche à comprendre, à saisir, à voir comment un comportement individuel peut entrer dans le champ d'une fraternité conçue juridiquement, parce que là, ce n'est pas simplement le législateur, les pouvoirs publics qui sont en train de se réclamer de la fraternité pour organiser, par exemple, une politique sociale, une politique de solidarité nationale ou autre. Donc, pour moi, c'est aussi une question importante. La fraternité n'était pas totalement absente auparavant d'un certain nombre de dispositifs législatifs, hein, puisqu'on y a fait référence, notamment en 1988, lorsqu'on a mis en place le revenu minimum d'insertion, plus récemment le RSA en 2007, etc. C'est-à-dire que à ce stade, le législateur fait référence éventuellement au principe de fraternité, mais toujours dans le cadre finalement de politiques publiques qui sont définies collectivement. Et on s'aperçoit que sous cet angle, c'est surtout en lien avec la notion de solidarité que la fraternité est indirectement utilisée. Mon collègue le disait tout à l'heure, la fraternité recoupe le sentiment de solidarité. Donc il est assez logique que politiquement et même juridiquement, on établisse un lien entre ce qu'on entend par solidarité, et là c'est saisi par le droit, ce principe de solidarité, cet objectif de solidarité, qu'on établisse un lien entre la solidarité et la fraternité. De telle sorte qu'à mon sens, il est assez logique que le Conseil constitutionnel, alors pour d'autres raisons qui nous ont été précisées à l'instant, mais il est assez logique que la question de la fraternité a été abordée à l'aune de ce que certains appellent le délit de solidarité, dont on peut légitimement se demander si finalement on n'est pas face à une sorte de délit de fraternité, si on donne à la fraternité une acception assez large. Voyez que depuis tout à l'heure, on lie la fraternité au symbole, on lie la fraternité à la solidarité, et finalement on reste parfois un peu imprécis, parce que y compris la décision du Conseil constitutionnel dont on a parlé à l'instant ne donne pas finalement une définition extrêmement précise de ce qu'est la fraternité. Donc la fraternité reste, y compris juridiquement, un peu imprécise, même si elle est liée au principe de solidarité. Et à mon sens, lorsqu'on aborde la question de la solidarité et de ce que certains appellent le délit de solidarité, on s'aperçoit qu'on est face à un véritable paradoxe. Parce que finalement, alors je tiens quand même à le dire parce que j'ai eu des surprises en discutant avec des étudiants parfois, le délit de solidarité fait partie en fait d'un discours militant. Le terme délit de solidarité, enfin la formule délit de solidarité, permet de mettre le doigt sur la contradiction qu'il y a à être sanctionné pénalement parce qu'on a aidé son prochain. Hein. Je le dis, le délit de solidarité échappe à la définition des crimes, délits, des peines qui leur sont applicables. On ne le trouvera pas dans le code pénal. Mais ce qui est intéressant dans cette formule, c'est qu'elle est elle-même paradoxale. Le délit de solidarité repose sur une sorte de paradoxe. Il y a un certain nombre de paradoxes qui entourent la notion de délit de solidarité, et y compris dans la façon dont les pouvoirs publics, dont le juge, dont les politiques ont abordé ces questions. Donc je vais tout d'abord aborder cette question des paradoxes qui entourent la notion de délit de solidarité. Et ensuite, je ne contredirai pas mon confrère, parce que ce qui m'intéresse sous l'angle du droit des étrangers dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est de vous expliquer succinctement, de manière synthétique, en quoi c'est finalement une décision de portée limitée. Alors, concernant les paradoxes qui entourent la notion de délit de solidarité. Le premier paradoxe, c'est qu'en réalité, ce qui est pénalisé, c'est une action véritablement de solidarité. On va, dans l'histoire, retrouver des exemples où on peut parler de sanctions, de pénalisations à l'égard de comportements qui sont des comportements humains, des comportements fraternels, mais il faut remonter à quelques années tout de même, puisqu'on va, dans les précédents historiques, pouvoir par exemple citer le code noir, qui a eu plusieurs versions, mais notamment dans sa version de 1685, qui prévoyait des peines pour ceux qui donnaient l'hospitalité, qui offraient l'hospitalité aux esclaves fugitifs. Et puis, l'esclavage ayant été aboli, notamment sous l'influence de Robespierre, lorsque Bonaparte a rétabli l'esclavage, un arrêté de 1802, contemporain du rétablissement de l'esclavage, punissait ceux qui entendaient faire obstacle, alors en fournissant asile, en fournissant assistance, au fait que les personnes de couleur retournent sur les propriétés dont ils dépendaient antérieurement. Donc on a déjà, par le passé, pénalisé, sanctionné des comportements qui étaient en réalité des comportements fraternels, et j'emploie le terme fraternel parce qu'on a bien vu tout à l'heure dans l'intervention et puis dans les rappels historiques que la notion de fraternité, même si d'aucuns considèrent qu'elle n'a qu'une portée nationale, en réalité, et si on envisage des questions environnementales, etc., par la suite, à mon sens, ça peut être confirmé, la notion de fraternité humaine, bien entendu, dépasse le cadre strictement national, recoupe la question de l'humanité. Donc on a déjà, avec le Code noir, avec la législation bonapartiste, on a déjà le fait de sanctionner pénalement des actions qui en réalité sont des actions fraternelles. Concernant l'époque actuelle, il y a aussi plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'en réalité, les dispositifs juridiques qui ont abouti à sanctionner, y compris des aides humanitaires, étaient au départ des dispositifs juridiques qui ne méconnaissaient pas la fraternité. Et à la limite, au contraire. Pourquoi ? Parce que la législation initiale vise à sanctionner les trafiquants. La législation sur laquelle on s'est au départ appuyé visait à sanctionner les trafiquants d'êtres humains. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas incompatible avec la fraternité. Et là, nous avons aussi un véritable paradoxe. Là, les dispositifs juridiques sont anciens. Hein, alors, je ne vais pas tout détailler ici, mais on a un décret-loi de 2 mai 1938 sur la police des étrangers qui aborde déjà la question du trafic, en réalité, hein, des êtres humains. On a une ordonnance à la sortie de la guerre du 2 novembre 1945. L'idée, c'est de sanctionner ceux qui facilitent l'entrée, la circulation, le séjour irrégulier d'un étranger, sanctionner pénalement hein, par des peines de prison, par des amendes. Mais à cette heure, il n'est encore question dans l'esprit du législateur que de sanctionner les trafiquants d'êtres humains. Au fil du temps, le législateur va aggraver la répression du délit, avec notamment la loi du 10 juillet 1976, qui est spécifique parce que là, on aborde la question de l'emploi irrégulier de main-d'œuvre étrangère, et je dis qu'elle est spécifique parce que ça nous renvoie à ce qui s'est passé en termes d'immigration dans les années 70, une fois que le premier choc pétrolier a eu lieu, une fois qu'on a décidé de ne plus organiser de manière quasi institutionnalisée l'immigration. À ce moment-là, on parle de quoi ? On aborde la question des étrangers en situation irrégulière de quelle manière ? On aborde la question sous l'angle du travail. Dans les années 70, on ne parle pas d'étrangers en situation irrégulière, on parle de travailleurs clandestins. Hein, le langage, le discours politique de l'époque est celui-ci. C'est la question qui recoupe l'idée que la crise économique survenant, la période du plein emploi est terminée, et qu'à ce moment-là, l'étranger qui est conçu comme en fait un employé, un salarié qu'on est allé globalement chercher, ne doit plus pénétrer ou de manière très limitée sur le territoire. Donc là encore, la législation évolue, mais ceux qu'on vise, ce sont ceux qui utilisent la misère humaine pour organiser le trafic des travailleurs clandestins. On est encore un peu dans cette optique avec les lois de décembre 91 ou de décembre 93, et on a un tournant, à mon sens, avec la loi du 27 décembre 1994, où on est passé à côté d'une véritable chance. Le fait de pouvoir, grâce au droit européen, grâce à l'évolution de la construction européenne, faire clairement la distinction entre les trafiquants d'êtres humains et entre ceux qui aident à des fins humanitaires des étrangers en situation irrégulière. Parce que la loi du 27 décembre 1994 visait à mettre le droit français en conformité avec la convention de Schengen du 19 juin 1990. Et cette convention devait obliger les États membres à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de ceux qui aidaient ou tentaient d'aider à des fins lucratives les étrangers à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un État de manière irrégulière. C'était très explicite. Donc en réalité, cette convention de Schengen excluait du champ de la pénalisation la question de l'aide humanitaire. Ce qu'elle visait, c'était la définition des sanctions appropriées vis-à-vis des passeurs, vis-à-vis de ceux qui agissaient à des fins lucratives. Et le gouvernement français a refusé à ce moment-là d'introduire, donc précisément dans l'article 21 de l'ordonnance de 1945, cette exception humanitaire. Cette exception humanitaire, alors que la convention de Schengen, explicitement, exclusivement, visait les comportements motivés par un but lucratif. Voilà pourquoi je dis qu'on a finalement loupé une chance, qu'on est passé à côté de quelque chose d'important, parce que si là, on avait transcrit correctement le droit européen, si on avait respecté l'esprit et la lettre de la Convention de Schengen dans le cadre d'une évolution de nos dispositifs juridiques, énormément de débats sur ce fameux délit de solidarité n'auraient jamais existé. Hein, voilà pourquoi, c'est un peu ancien pour les jeunes générations, mais pourquoi j'insiste sur cette loi du 27 décembre 1994. Et d'ailleurs, c'est en réponse à ce refus du gouvernement que des poursuites ont été initiées sur le fondement d'un texte qui n'était pas à la hauteur de la Convention de Schengen de juin 1990 et que a commencé à se dessiner très précisément ce qu'un certain nombre de militants, d'associations ont fini par qualifier de délit de solidarité. Alors, puisque le délit de solidarité est par essence paradoxal, puisqu'il s'agit d'être pénalisé parce qu'on a porté secours à son prochain. Alors même que d'autres législations prévoient certaines obligations de fraternité. Hein, le fait d'être sanctionné parce qu'on n'a pas porté assistance à une personne en danger peut s'analyser comme le fait d'être sanctionné parce qu'on a manqué de comportement de solidarité, de comportement fraternel. Bon. Il y a donc un véritable paradoxe. Ce paradoxe a été de plus en plus mis en lumière politiquement au fur et à mesure où le droit des étrangers a évolué de manière plus stricte, hein, on peut dire ça comme ça. On a toute une évolution du droit des étrangers dans le discours politique, hein, je ne parle pas du fond, ça on en parle beaucoup et des différents domaines, mais dans la façon dont on aborde la question des étrangers en situation irrégulière, là où on parlait de questions strictement économiques dans les années 70-80, y compris de manière un peu caricaturale ou simpliste, on est passé à d'autres questions, et notamment le fait d'intégrer des questions liées à la sécurité. Et donc l'argument de la sécurité, l'argument du risque de terrorisme, etc., est un argument qu'on retrouve dès les années 90 pour refuser d'appliquer strictement la logique du droit européen. Alors ça peut, à priori, nous paraître étonnant, puisque depuis nous avons connu des drames en France, alors que dans les années 90, la situation n'est pas aussi dramatique, même si on notera quelques situations tendues, quelques actes abominables aussi dans les années 80-90. Mais cette référence à la question du terrorisme, à la question de la sécurité, eh bien, c'est l'argument systématique, et je le dis, hein, au-delà des changements de majorité, y compris sous la cohabitation lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, c'est l'argument de chaque majorité, de chaque gouvernement, pour ne pas aller jusqu'au bout de la logique de la Convention de Schengen. Alors à partir du tournant des années 2000, avec notamment la loi Sarkozy du 26 novembre 2003, on va commencer à évoluer de manière un petit peu différente. On va maintenir les délits, voire on va renforcer les sanctions, mais on va prévoir des exemptions. Donc la question ne va pas être abordée sous l'angle de la Convention de Schengen où on aurait exonéré de poursuite toute aide humanitaire. On va considérer que si on est très proche de l'étranger, on n'a pas à être sanctionné quand on l'a aidé. Voilà, en fait c'est ça. Et donc toute la question qu'on retrouve dans les lois Sarkozy de 2003, dans la loi Sarkozy du 24 juillet 2006, dans la loi Besson de 2011 et dans la loi Valls de 2012, en réalité, c'est le nombre, la nature, la portée d'exemption. Voilà. Le conjoint peut aider. Qui peut aider ? Le conjoint séparé peut-il encore aider ou pas ? Est-ce que des enfants, des ascendants peuvent aider ? Et c'est là-dessus que la question porte, hein. On présente en réalité l'idée qu'on reste, qu'on prend en compte un certain nombre d'actions humanitaires, parce qu'en réalité, on est lié à l'étranger de manière familiale. Mais on refuse toujours, hein, y compris dans la loi Valls, qui avait prétendu mettre fin au délit de solidarité, dans la loi Valls, en réalité, on élargit le champ des immunités, et dans les immunités familiales, bien désormais, on inclut la belle famille. Voilà. Mais, au-delà du cercle familial, on estime aussi qu'une personne peut échapper aux poursuites si son action se limite à la fourniture de prestations de restauration, d'hébergement, de soins médicaux, voire de conseils juridiques, sans contrepartie directe et indirecte, afin de préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger. Derrière cette formule, en réalité, on a beaucoup d'exceptions et des possibilités de pénalisation encore importantes. Encore importantes, Notamment, par exemple, parce que la notion de contrepartie a été analysée de manière assez étonnante par les juges. Quand on parle de contrepartie dans la législation depuis les années 30, on parle de contrepartie financière. Et on va arriver, en réalité, dans les années 2000, à envisager la contrepartie militante, par exemple. L'idée qu'un militant qui fournit une aide, eh bien, on tire une contrepartie qui serait une contrepartie politique, j'appelle ça comme ça, parce que ça reste un peu flou, une contrepartie politique, une contrepartie militante, qui ne permet pas d'échapper aux sanctions. Et on aboutit à des situations quand même assez complexes, parce que, par exemple, je ne sais pas, vous prenez une association qui œuvre en matière sociale, en matière humanitaire, exemple le Secours Populaire, qu'est-ce qu'un militant du Secours Populaire ? Où est la définition ? C'est quoi la différence entre un militant, un bénévole ? Enfin, notre connaissance politique peut nous éclairer sur tout ça. On arrive à des situations qui sont un peu abracadabrantesques en réalité, et avec effectivement une liste d'exemptions relativement importantes, la famille, la belle famille, et puis ceux qui interviendraient, mais pour protéger finalement la dignité, la vie, l'intégrité physique, ce qui déjà se discute, sans aucune contrepartie directe et indirecte, et dans la contrepartie indirecte, eh bien finalement, il y a la contrepartie militante. C'est ce qui vous explique que le délit de solidarité, malgré cette loi, est perduré. C'est ce qui vous explique pourquoi M. Héroux a été ensuite condamné, y compris plusieurs fois. Parce que là encore, au-delà du discours politique de suppression du délit de solidarité, eh bien, on a en quelque sorte manqué une étape. Il aurait été simple dans cette loi Valls de dire une bonne fois, quitte à le circonscrire, comme l'a fait le Conseil constitutionnel, je vais en parler, au territoire et ne pas prendre en compte l'aide à l'entrée sur le territoire, mais il était assez simple d'aborder la question de l'aide humanitaire de manière générale, une fois pour toutes, et on en parlait. Alors c'est finalement dans ce contexte qu'est intervenue la décision du Conseil du 6 juillet 2018. On a été très très éclairé sur cette décision tout à l'heure, donc sur toutes ces questions, je serai assez rapide. Ce que je trouvais intéressant, notamment dans la plaidoirie de Maître Spinozzi, dont mon collègue a parlé, c'est le fait de mettre en exergue quelque chose. Hein, Maître Spinozzi, très clairement, a expliqué que les textes étaient flous et que le législateur n'a pas réussi à poser clairement cette ligne de démarcation pourtant simple. D'un côté, l'assistance rémunérée, les actes des passeurs. D'un autre, l'assistance désintéressée, celle des indignés, des militants, des engagés, pour laquelle il ne peut y avoir d'ambiguïté, aucune poursuite pénale ne peut être engagée. Et je trouve que voilà, cet élément de sa plaidoirie résume absolument tout. Le fait qu'en réalité, nous arrivions en 2018 avec une question qui se pose, au-delà même de la question de la fraternité, enfin de la décision du Conseil sur le fait de reconnaître à la fraternité la valeur constitutionnelle, une question voilà, qui induit un certain nombre de débats, un certain nombre de poursuites, alors qu'on aurait pu résoudre ça dès les années 90 de manière assez simple. Ce qui m'intéressait, je le disais tout à l'heure aussi, hein, au-delà de la reconnaissance telle qu'on nous l'a expliqué, à mon sens, c'est que le Conseil nous permet de mieux comprendre qu'un comportement individuel peut finalement être un comportement saisi par la notion de fraternité au sens juridique. Moi, c'est une question que je me pose pour l'avenir, y compris dans d'autres domaines. Le Conseil constitutionnel ne nous a pas dit « je fais référence à la fraternité dans le cadre de la mise en œuvre de mesures sociales, je ne fais pas référence à la fraternité dans le cadre de l'analyse de la constitutionnalité d'une loi qui toucherait la solidarité nationale, etc. » En fait, il a fait référence à la fraternité, il lui a reconnu cette valeur de principe constitutionnel, dans un domaine où jusque-là, ces décisions, et il y en avait eu plusieurs, l'amenaient à s'intéresser surtout au droit pénal. Alors, je ne sais pas s'il y a des pénalistes dans la salle, mais en réalité, les différentes décisions antérieures étaient des décisions où il réfléchissait à des questions qui relevaient du droit pénal. Et là, il a réfléchi sur le point de savoir finalement si les dispositifs en cause qui peuvent aboutir à des comportements individuels étaient équilibrés au regard du maintien de l'ordre public. Donc pour moi, c'est une question qui est relativement importante et on sera peut-être éclairé dans la jurisprudence des années à venir sur les rapports entre les comportements individuels et la fraternité. Ce que je trouve bien sûr intéressant, c'est le fait que par la décision du 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a admis l'invocabilité en justice de la fraternité, et depuis un certain nombre de décisions, même s'il n'a pas retenu le principe de fraternité en l'espèce, se sont inscrits dans cette démarche. Cette décision, elle a pour moi une portée qui est tout de même importante, hein, parce que au-delà des limites, elle a quand même conduit à ce que l'article 38 de la loi du 10 décembre 2018, en application de la logique de la QPC, eh bien, vienne modifier l'article L624 du CESEDA, hein, puisque dans les exemptions aux sanctions qui sont désormais prévues, on prévoit que sont exemptées de sanctions toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, etc. Et finalement, elle a tout de même un effet. La question qui pour moi se pose, c'est que cette décision, elle reste limitée à plusieurs niveaux en matière de délit de solidarité. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle n'a pas, contrairement à ce qu'on pourrait dire, aboli totalement le délit de solidarité. Elle n'a pas totalement aboli le délit de solidarité parce que, d'après sa jurisprudence de juillet 2018, le principe de fraternité, n'a d'incidence qu'à l'intérieur des frontières du territoire français et non à l'occasion du franchissement des frontières. Aider un étranger, y compris de manière humanitaire, à passer la frontière, ça reste délictueux. Donc là-dessus, il faut faire un peu attention aux unes des journaux, y compris du Monde, etc. etc. Un certain nombre de raccourcis ont été faits, et puis de raccourcis politiques dans un sens ou dans un autre. En réalité, si on veut être précis, le principe de fraternité sous cet angle-là n'a d'incidence qu'à l'intérieur des frontières. Et en réalité, la fraternité a conduit le Conseil constitutionnel à faire entrer quoi ? Eh bien, à faire entrer l'aide à la circulation, mais dans le cadre des frontières françaises, dans le champ des exemptions au délit. Voilà. C'est qu'on a des exemptions familiales, on a les exemptions pour la belle famille, on a les exemptions posées par la loi Valls, et maintenant nous avons une exemption qui est l'aide à la circulation dans l'enceinte des frontières. La portée réelle en matière de droits des étrangers de cette décision, c'est ça. Mais arguer du caractère humanitaire de son acte pour aider un étranger à passer la frontière, ce que M. Héroux d'ailleurs a fait un certain nombre de fois avec l'Italie, c'est toujours sanctionnable. Et ça, il faut être absolument clair là-dessus. Et puis, il y a une autre question qui reste posée, c'est la question du militantisme. Hein, je disais déjà tout à l'heure, c'est une question finalement complexe, on a un certain nombre de décisions de justice antérieures, mais on a aussi le communiqué immédiat du ministre de l'Intérieur qui souligne que l'exemption pénale pour aide apportée dans un but humanitaire ne doit pas s'étendre à l'aide apportée dans un but militant aux fins de faire obstacle à l'application de la loi ou à l'action de l'État. Donc la décision du Conseil constitutionnel, en réalité, ne nous éclaire pas spécialement sur ce qu'on entend encore par contrepartie directe ou indirecte et sur ce que représente l'action militante en termes de contrepartie, puisque des magistrats ont réussi à considérer que finalement agir de manière militante aboutissait à une contrepartie comparable, enfin en tout cas livrant les mêmes effets au plan pénal que le fait de mener des actions à but lucratif et de trafiquer des êtres humains. Vous voyez, j'ai même du mal un peu à le formuler parce que je trouve ça véritablement particulier comme, voilà, comme niveau d'analyse. Donc, si on voulait vraiment résumer tout ça, ce que certains appellent délit de solidarité, hein, qui est une formule militante, n'est pas en tant que tel abrogé, n'est pas en tant que tel invalidé. En réalité, la décision du Conseil peut s'analyser, donc ce n'est pas que j'en minimise la portée, y compris en termes d'évolution du droit constitutionnel ou de potentialité, mais en réalité, elle peut être analysée sous l'angle du droit des étrangers comme le fait d'élargir les exemptions à la sanction et d'introduire dans les exemptions à la sanction l'aide à la circulation sur le territoire national. Alors, ça évoluera peut-être, mais en aucun cas, et mon collègue l'a justement souligné, le Conseil n'a finalement ordonné au législateur d'une manière ou d'une autre, et d'ailleurs c'est pas en tant que tel son rôle, mais il n'y a pas dans la reconnaissance de ce principe de fraternité l'obligation pour le législateur de supprimer toute sanction à l'égard de comportements qui ne seraient pas forcément d'actions qui ne seraient pas forcément effectuées dans un but lucratif. Ça ne découle pas en tant que tel de la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. Alors peut-être pour conclure, la question, à mon sens, elle a tout de même vocation, sinon à évoluer, en tout cas à intéresser de plus en plus le droit des étrangers, et pas simplement en France, hein, puisque il y a là une affaire très très récente de Stéphane, qui concernait un dénommé Stéphane Pélissier, qui a été acquitté en Grèce le 1er mars, parce qu'il avait aidé sa belle famille syrienne. Hein, donc la question qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, en fait, dépasse le cadre franco-français à strictement parler. Et je pense aussi, et là je laisserai des collègues et les étudiants me donner leur avis, que si on considère ce que je me suis permis de considérer tout à l'heure, c'est-à-dire que le triptyque liberté, égalité, fraternité reflète une société qui a, pour reprendre l'expression du professeur Burdeau, une idée de droit tout à fait spécifique, qui est celle de la République française, démocratique, sociale, laïque. Eh bien, à mon sens, le principe de fraternité, qui là débouche sur la liberté d'aider autrui, nous livre ici en fait une première facette. Et ce qui m'intéresse aussi dans l'avenir, c'est de voir en quoi ce principe de fraternité peut finalement venir à l'appui, soit en matière contentieuse, soit en matière législative, de décisions qui seraient prises, voilà, par des magistrats ou par des décideurs politiques concernant nombre d'autres facettes, regardez, des politiques publiques, des politiques sociales, notamment au sens où, par exemple, je serais curieux de voir, vis-à-vis de certaines réformes, comment on peut en appeler au principe de fraternité si ce que certains appellent des acquis sociaux sont mis en cause, minimisés ou modifiés. Voilà, voilà, cette question-là m'intéresse. Je ne sais pas si on aura le loisir dans l'avenir de voir se développer, y compris des recours devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de lois sur ces bases-là, mais ça, véritablement, ça m'intéresserait. Que signifie véritablement ce principe de fraternité au regard de notre système social? Et je me dis même que peut-être le Conseil constitutionnel pourrait intégrer la notion de principe de fraternité pour valoriser le rôle qu'on lui a notamment reconnu dans les années 80, celui d'amortisseur d'alternance. Je vous remercie de votre attention.